Bien, alors, comme vous l'a dit Marie-Odile, moi j'interviens ici, au titre donc de collègue qui travaille donc dans un service de veille. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui voient passer nos travaux. On est donc 6 avec des statuts un petit peu divers qui faisons de la veille. C'est-à-dire qu'on signale tout ce qui peut a priori concerner le monde de l'éducation au sens très large. Et nous signalons les revues, les rapports, les thèses, les colloques, les actes de colloques en ligne, etc. Et tous les 15 jours, nous diffusons un bulletin à 7000 abonnés à peu près, donc gratuitement, donc qui ont un récapitulatif de tout ce qu'on a pu mettre en ligne, signaler en ligne, pardon, dans la semaine. La raison qui m'amène ici, c'est en fait parce que chaque mois, nous réalisons une synthèse de la littérature de recherche, avec un certain nombre donc de règles sur lesquelles je vais revenir. Et donc, nous choisissons, nous avons encore la chance de choisir à peu près nos thématiques. Et donc, en 2011, fin 2011, j'ai réalisé donc un dossier sur l'éducation familiale. Enfin, les effets de l'éducation familiale sur la réussite scolaire. C'était déjà un choix dans l'énoncé du titre. Donc le but du jeu pour nous, c'est en fait de travailler à partir donc de documents divers et variés, à partir d'un sujet. Donc comment on fait ? On récupère, alors c'est un peu le côté méthodo, mais ça peut être utile puisqu'on est en formation, autant que ça puisse aussi un petit peu servir ultérieurement pour vous, en tout cas, je vous explique comment nous, on fonctionne. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des chercheurs, ça c'est une chose qui est sûre. On est ingénieur d'études, ingénieur de recherche, enseignant détaché, enseignant documentaliste ou dans d'autres disciplines. Et donc, le but du jeu, c'est de dire, voilà, il y a un sujet émergent, j'ai envie d'en parler. Qu'est-ce que peut dire la recherche à ce sujet-là ? J'essaye de décortiquer. Une de nos caractéristiques sur lesquelles je ne suis pas intervenue, enfin, dont je ne vous avais pas parlé, c'est que notre principe, c'est d'avoir un regard sur l'international. C'est-à-dire aussi bien toutes les choses que l'on signale que dans nos notes de synthèse, on travaille sur la littérature francophone et anglophone. À défaut de connaître d'autres langues, on essaye de temps en temps d'aller sur l'allemand ou l'espagnol avec l'aide de collègues, mais c'est quand même plus difficile de faire une note de synthèse quand on ne maîtrise pas totalement la langue. Donc, anglophone, francophone. Et on essaye de travailler donc à partir de ressources que nous, on a pu découvrir soit par notre veille régulière, soit ponctuellement sur la thématique en question. Des équipes de recherche, des centres de ressources, des banques de données. Et on part, bien entendu, des rapports internationaux, OCDE, Union européenne ou UNESCO. Donc, par exemple, notre premier point de départ, c'est d'aller voir sur l'OCDE, parce que ça permet d'avoir un volet comparatif au niveau de l'international qui peut être intéressant. Là, je vous ai juste mis celui-là dont je ne fais pas référence dans mon dossier, parce qu'il est relativement récent, puisqu'il est de fin 2012, et où, par exemple, l'OCDE a fait un rapport, un dossier, sur l'avantage de faire lire les enfants au sein de la famille. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'intérêt de la chose. Alors, d'un point de vue général, par exemple, nous, j'ai essayé de regarder les travaux que l'on peut signaler, sur lesquels donc, on a une certaine surveillance, sur les mots famille ou parents. Donc c'était un peu pour revenir sur ce qu'avait fait M. Glassman précédemment, sur la notion de famille et de parents, où il y a eu un glissement de la terminologie. Donc j'ai essayé de voir si on parlait plus de famille que de parents. A priori, donc, on parle bien plus de parents, en l'occurrence. On parle notamment, donc, alors, la notion de parents était pratique sur l'anglophone et le francophone, puisque là, je pouvais faire une recherche commune. J'avais toutes les langues, tous les travaux des deux langues qui ressortaient. Donc on voit qu'on a quand même, proportionnellement, c'est à peu près entre 3 et 4% de notre littérature, de tous les signalements qu'on peut faire sur notre site, qui parlent des parents ou de la famille ou des problèmes donc d'éducation familiale. Voilà, c'était juste pour donner un contexte un petit peu au travail qu'on pouvait faire. Et puis, je vais essayer maintenant de vous présenter le contenu du dossier que j'ai pu réaliser. Donc, l'idée étant, on parle de l'éducation familiale. Est-ce qu'elle a une incidence sur la réussite scolaire? Et comment est-ce que la recherche s'est emparée du sujet pour en discuter? Qu'est-ce qu'on peut en dire, etc. Oui, j'ai mis des dossiers... Oui, tu peux... J'en ai pas gardé. Si, j'en ai un là, voilà. Bon, c'est celui-là et j'en ai mis quelques exemplaires là-bas, si ça intéresse. Voilà. Alors, le principe de ces dossiers, c'est qu'ils sont gratuits, en ligne, et qu'on fait en sorte de documenter, c'est-à-dire que vous avez bien entendu, comme n'importe quelle note de synthèse, une bibliographie enfin, mais au fur et à mesure du texte, on présente donc les documents à partir desquels on parle. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est bien une synthèse de la littérature de recherche. Et à chaque fois, on met un lien vers le document, parce que ce sont quand même beaucoup d'articles, ou bien l'ouvrage. Et on a une bibliographie collaborative à partir de laquelle vous pouvez donc visualiser tout ce qu'on a pu ranger comme document parlant de la famille ou des parents. Donc vous trouverez le lien sur notre site. Et donc vous pourrez... alors vous avez les coordonnées ici sur le document... Et donc, vous pourrez accéder à cette bibliographie si vous voulez aller plus loin. Moi, pour l'instant, je vous fais l'économie d'un peu de lecture avec cette note de synthèse. Alors, l'idée... je regarde parce que j'ai 36 000 écrans là, donc ça commence à... Je suis en surcharge cognitive là. La première idée qu'on peut trouver, c'est qu'effectivement... A priori, c'est quand même la famille qui est le premier système éducatif social, puisqu'avant d'aller à l'école, quand même, l'enfant est au sein de sa famille, même s'il est gardé, il y a quand même une cellule familiale qui prend en charge l'enfant dès le départ. Bien entendu, certains diront que tout se joue. À une époque, c'était tout se joue avant 6 ans, puis maintenant, c'est avant 2 ans, donc il faut que les parents bossent dès le départ, hein. Et puis, voir qu'au niveau institutionnel, donc je disais que nous, on regarde les rapports de l'Union européenne, de l'OCDE, etc., on parle beaucoup du rôle des parents dans l'école. Avec un collègue, on avait fait précédemment un dossier sur les parents et l'école, qui était plus justement, comme on disait ce matin, sur le côté partenariat, entrée des parents dans l'école. Donc c'était plus le versant, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'école vraiment. Et puis l'autre gros sujet émergent, ce qui ressort de la littérature de recherche, c'est les stratégies parentales quand on choisit l'école, hein, du Rubella, Van Zanten, etc. Il y a un fort alors c'était il y a quelques années, ça revient un petit peu, mais il y a 5 ou 6 ans, c'était assez fort les problématiques sur le choix de l'école. Et puis c'est ressorti au moment de la transformation de la carte scolaire. Alors j'ai essayé de regarder, histoire d'actualiser un peu mon dossier, quels étaient les articles dans la dizaine ou la vingtaine de revues parues depuis 2-3 mois, hein, sur les parents, qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Donc essentiellement la participation de parents et de la communauté scolaire dans le domaine de l'éducation, des idées de coopération, hein, donc on l'a croisé ce matin, l'accompagnement des parents et le suivi scolaire, donc ça aussi on en a parlé, c'est un sujet qui revient assez fortement, la satisfaction des parents, l'autonomie des établissements scolaires, alors je lis en même temps que vous, congé parental et éducation de la petite enfance, la notion de parentalité, alors tout à l'heure Marie-Odile disait que j'avais parlé de la parentalité, j'ai en fait bien évité d'utiliser le terme parentalité et de travailler sur la parentalité parce que ça me semblait un peu inconfortable comme sujet, donc voilà, c'est un moyen de, quand on fait nos notes de synthèse, on contourne de temps en temps comme ça certaines notions. Autre sujet, mixité sociale, parents classe moyenne, donc là aussi on a abordé ça ce matin. Le côté parents et attentes et problèmes par rapport aux adolescents, on y reviendra peut-être rapidement. J'ai trouvé un article sur les Roms qui sont-ils des mauvais parents, et un autre sur l'acculturation des immigrants. Et puis, le niveau d'études des parents et la réussite à l'université. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais ça peut être aussi intéressant. Mais sur le niveau d'études, je vais y revenir. Et puis, bien entendu, stratégie et choix de l'école, ça dure encore et toujours. Voilà, globalement, le contexte. Et puis, je vais essayer de vous présenter voilà, ce que j'ai pu retenir de mes lectures, qui étaient sans doute quelque peu orientées. J'ai essayé de rentrer un peu dans le sujet avec un certain nombre de définitions. Et puis, de voir quelques exemples et quelques enquêtes qui pouvaient illustrer le propos. Alors, essentiellement, ce qu'on retrouve dans les travaux de recherche, c'est d'abord les styles éducatifs qui seraient donc qui auraient des effets sur la réussite éducative. Donc, selon les auteurs, il y a des noms différents. Depuis, les travaux de recherche citent en fait des auteurs qui ont écrit ces choses-là dans les années 90, voire un petit peu avant. Globalement, on arrive à regrouper en trois, quel que soit le nom qu'on utilise. Donc, vous trouverez les références dans le dossier, dans la bibliographie. Mais donc, il y a soit le style permissif selon les uns, ou contractualiste, c'est-à-dire en fait un style où il y a un contrôle faible des parents, mais un soutien élevé, où on a donc une recherche d'autonomie, on cherche à motiver son enfant, voire à le séduire hein, comme technique de contrôle. Il y a donc un jeu entre les parents, en sachant que dans ce style d'apprentissage, a priori, les rôles entre père et mère ne sont pas forcément différenciés. Et on a une ouverture assez forte sur les influences extérieures. Donc c'est plutôt le côté négociateur. Alors d'autres disent que ce sont souvent des familles qui sont plutôt sur le mode associatif, c'est-à-dire le couple de parents travaillent ensemble pour l'éducation des enfants et donc vont dans un sens plutôt de la négociation entre les adultes et les enfants. Deuxième style, le style autoritariste, qui est appelé par d'autres statutaire, c'est-à-dire qu'on a un contrôle cette fois élevé mais un soutien faible, et puis avec chacun qui a une place déterminée, c'est-à-dire qu'on a un rôle homme-femme qui est différencié, on a une grande distance entre les parents et les enfants et une grande réserve par rapport aux acteurs extérieurs de socialisation. Et on a un contrôle coercitif de la part des parents. Troisième style qui chez les uns s'appelle, enfin a été appelé style autoritaire, chez d'autres structurant, parce qu'il n'est là on a un contrôle élevé, un soutien élevé et plus une éducation maternaliste, c'est-à-dire avec une priorité à la conformité, un contrôle direct des parents, une distinction entre père et mère, mais avec une proximité entre parents et enfants. Et une ouverture relativement restreinte vers l'extérieur. Alors certains ont dit que ce style était propre aux familles bastions, c'est-à-dire aux familles qui sont fermées un petit peu sur elles-mêmes et qui seraient pour certains donc plutôt associées avec des familles populaires. Mais ça, je cite, notez bien toujours les chercheurs. Alors, qu'est-ce qu'on a donc des conformités par rapport aux règles, par rapport aux valeurs, hein, qui peuvent être plus ou moins fortes selon le style autoritariste ou le style autoritaire. On va y revenir ensuite. Alors, peut-être que je vais être un peu vite parce qu'il faut que je tienne les délais. Tu me diras. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est important à voir? C'est justement ce côté autorité parentale, valeur, enfin, ce qui me semblait ressortir pas mal des travaux de recherche. Donc après, à vous d'empoigner le sujet et puis d'en discuter. Donc j'ai essayé de voir ce qui pouvait se dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur les familles de milieux populaires. On l'a vu aussi ce matin, mais malgré tout, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe aussi chez les autres, ne serait-ce que pour comparer et puis voir. En faire une analyse, voilà. Donc, sur les autorités parentales, valeurs en milieu populaire, donc on voit qu'il y a une certaine autorité malgré tout, mais, alors c'est le côté sans doute plutôt autoritaire, autoritariste, comme je le disais, avec de la surveillance et de la punition. Donc là, effectivement, on peut débattre des situations qu'on avait ce matin présenté par Dominique Glassman. L'idée de développement naturel, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas forcément, Et puis, l'obéissance aux règles, hein, c'est ce qui était dit ce matin, c'est-à-dire c'est là où on a le malentendu, hein, avec les parents qui disent, moi, voilà, il faut suivre les règles, t'as tes devoirs à faire, tu dois faire ton cartable, tu dois être comme ci, comme ça, et qui, effectivement, essayent de cadrer par rapport aux règles, par rapport à la forme scolaire et aux normes scolaires. Et puis l'idée de propreté, de politesse, d'obéissance, etc. Inversement, sur les catégories socio-professionnelles plus, les CSP+, comme on dit, là, ça revient un petit peu donc au style permissif que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire avec plutôt une gestion psychologique, c'est-à-dire qu'on va négocier plutôt que de punir. On va essayer de raisonner avec l'enfant. Et là, par contre, on est sur une idée de faut vraiment apprendre des choses, acquérir des connaissances. On est sur l'inculcation. Donc, on y reviendra, mais ça va être le jeu éducatif, etc., qu'on va privilégier. Et puis, la recherche d'autonomie. Donc, on est vraiment plus sur ce côté permissif contractualiste comme style, avec malgré tout, on retrouve le respect des autres quand même, mais aussi un côté estime de soi, maîtrise de soi fort, avec une tendance à pousser vers la créativité, l'inventivité. Bon, ça, ce sont des styles peut-être un peu stéréotypés, on va dire. Hein. Alors, ce qui peut être important aussi, c'est, deuxième approche finalement, c'est quels sont les savoirs et savoir-faire transmis dans la famille. Autre catégorie donc d'articles, de travaux de recherche, en sachant donc qu'on a des moments forts qui vont être bien entendu avant l'entrée à l'école, hein, puisque c'est là qu'on va dire que les parents doivent apporter un certain nombre de vocabulaire, sinon ça doit se passer à la maternelle, sinon etc. En début de scolarisation, donc oui, effectivement, c'est important d'aider l'élève à rentrer dans cette forme scolaire, puisque là, il y a quand même rupture, il y a une transition, et bien souvent, ça pose problème sur d'autres sujets. Donc, on a vu ça. Et puis, à l'adolescence, où là, il peut y avoir rupture, et là, les parents ont parfois, même assez souvent, quelques soucis. Alors, comment peut se faire cette transmission? C'est-à-dire qu'on a des savoirs qui sont au sein de la famille, qui peuvent se faire au sein de la famille, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des difficultés selon la scolarité des parents. Donc là, il y a des études qui regardent donc quelle a été la scolarité du père, la scolarité de la mère, jusqu'où donc ils sont allés, et savoir si le niveau de formation, je vais y revenir tout à l'heure, le niveau de formation du père ou de la mère ont une quelconque influence, si ça permet d'aider l'élève ou pas, le problème d'accompagnement et de suivi scolaire de l'élève. Et puis, deuxième grand volet qui a été analysé notamment par les sociologues, sur les pratiques culturelles de la famille. Je vais là aussi y revenir. Et enfin, les environnements qui sont dans la maison pour aider l'élève à se développer donc cognitivement, comme on dit. Alors, sur la scolarité des parents, on note, alors je prends des réserves, c'est ce que j'ai lu, le niveau d'études de la mère influerait plus sur les compétences de l'élève, alors que le niveau d'études du père influerait plus sur le niveau scolaire de l'élève. Compétences pour l'une et niveau scolaire pour l'autre. Le diplôme aurait plus d'impact que la profession. Ça, bien entendu, on peut avoir des réserves et des éléments des nuances à apporter à cette idée. Et les inégalités sociales se retrouvent donc exacerbées par ces trois idées de diplôme, de compétences et quant à la stratégie scolaire. Donc il y a des éléments qui apparaissent, statistiques, qu'on peut récupérer à partir des enquêtes de l'INSEE. Donc là, je cite celle 2004. J'ai après travaillé sur d'autres enquêtes de la FEV notamment, qui pouvaient être intéressantes, mais qui sont plus sur des enquêtes auprès de public. Là, l'INSEE, bien entendu, les statistiques sont des données beaucoup plus importantes. Sur les pratiques culturelles des parents, donc on se trouve un certain nombre d'analyses sur les facteurs qui pourraient favoriser la scolarité. en sachant bien que si on redouble pas, c'est mieux. Voilà, donc la présence de livres à la maison, la fait de, que les parents lisent ou non un quotidien, qu'il y ait des ordinateurs à disposition et que les parents les utilisent. D'autres activités, alors a priori, la vision de la classique de la culture, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller au cinéma, au musée, que de faire du sport. Voilà, c'est, là, ça aide mieux au développement cognitif de l'élève. Bon, c'est comme ça. Alors, c'était aller à la chasse et faire le tricot, j'ai écrit tel que hein, c'était indiqué. La, ce qui aiderait, c'est la présence de jeux et de jouets éducatifs. Donc, tout le monde achète le petit jeu dès le départ pour mettre le petit cube dans le trou carré, et etc., etc. Ça commence comme ça. Et ensuite, l'acquisition d'un lexique minimum avant l'entrée à l'école primaire, avec donc un certain nombre de codes linguistiques, un nombre minimal de mots. Alors j'ai lu que finalement il fallait arrêter d'embêter les profs de maternelle en les forçant absolument à ce que les élèves sachent déjà lire, écrire et dire des tas de mots avant d'arriver au CP, et que ce serait bien de les laisser un peu s'occuper de motricité et autres choses bien plus rigolotes. Bon, voilà, en tout cas... C'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses. Moi, j'avais fait un dossier sur les méthodes de lecture. Et voilà, il faut démarrer au plus tôt pour que son enfant puisse réussir et arriver jusqu'au bac. Autre élément d'analyse par rapport donc à l'éducation familiale, ce qui est important pour le développement et la réussite possible de l'élève, c'est bien entendu le statut socio-économique. Alors, j'ai souvent l'impression de dire des évidences, mais bon... voilà, il y a une corrélation entre la catégorie socio-économique et l'acquisition du vocabulaire. Il y a alors notamment des données qui ont été faites à partir de des évaluations internationales, notamment PIRLS, qui est plutôt sur donc le français et la langue, où on aurait donc noté une corrélation entre le statut socio-économique, mais aussi donc culturel, hein, puisque toujours l'idée d'avoir des livres, le fait d'avoir d'argent, on peut donc avoir un certain nombre d'outils et d'objets culturels à la maison, ou bien on peut aller au cinéma, au musée plus facilement, forcément. Et puis, on note un lien entre la numératie et les jeux de manipulation, les jeux de société. Donc, il faut savoir si vous voulez le pousser vers les maths ou autre chose, il faut choisir ces types de jeux. Alors, autre chose, autre volet intéressant dans les travaux de recherche, c'est bien entendu l'analyse des attentes des parents. Et là, on est après sur des problèmes de corrélation entre les attentes des enseignants, les attentes des parents et un malentendu possible ou pas. Donc, sur les attentes cognitives des parents, donc c'est pareil, selon le style, selon les parents, effectivement, on va attendre à ce que l'école apporte toutes les bases de, enfin toutes les connaissances de base, pardon, et qu'elle puisse permettre une certaine curiosité. Donc ça aussi, ça dépend, puisque dans certaines familles, on va se dire que c'est au sein de la famille, grâce aux jeux éducatifs, grâce aux musées, grâce aux livres, qu'on va aussi éveiller la curiosité des élèves. On attend de la socialisation, hein, ça reprend un petit peu ce qui avait été dit ce matin. Donc on attend à ce que l'école apprenne aussi à vivre avec les autres, apprenne le respect, apprenne les normes et les règles de la société. Et puis des attentes qui tiennent aussi à l'organisation. Je ne sais pas si les débats sur le rythme scolaire en font partie, mais pour l'instant, ce n'est pas trop les parents qui râlent, je crois. Bref. Voilà, et l'organisation des parcours. C'est-à-dire qu'effectivement, on attend à ce que l'école oriente ses élèves. Mais là aussi, comme ça a été dit ce matin, dans le sens qu'on souhaiterait. Donc on a des attentes pour pousser ces enfants, on va le voir sans doute plus loin si j'ai le temps, jusqu'où les parents souhaitent effectivement que leur gamin aille plus loin. Je suis revenue en arrière, je crois. Hein. Alors, je vais peut-être passer un petit peu plus vite sur les aspirations. Alors, bien entendu, il faut savoir qu'il y a une forte attente des parents, et que là, je disais qu'il y a différents moments dans la vie qui peuvent être importants pour la réussite des élèves. C'est qu'effectivement, des attentes fortes peuvent être à un moment contre-productives au niveau de l'adolescence. D'abord parce qu'il y a conflit avec ses enfants et que les parents peuvent lâcher plus prise aussi. C'est-à-dire que des parents qui ont un niveau scolaire faible et lâchent prise au moment de l'adolescence parce que là, ils suivent plus. C'est-à-dire que le primaire, ça va encore. Ils arrivent à aider leurs enfants. Ensuite, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il y a un certain nombre de croyances, de représentations. À chaque fois, je vais en arrière. J'ai un souci. Voilà. Alors, par rapport au rapport à l'école, oui, je vais peut-être quand même reprendre ça. Entre les catégories socio-professionnelles plus, donc on a, j'ai déjà parlé du statut socio-économique, on a de la même manière le capital culturel ou le capital socio-économique, donc on a des attentes différentes selon qu'on a un diplôme et une profession plutôt intellectuelle. Et un diplôme plutôt marketing, commerce, etc. Ou bien si on est artisan, ou bien si on est commerçant, on va avoir aussi des attentes un petit peu différentes par rapport à l'école. On a une représentation qui est différente et les catégories socio-professionnelles plus qui sont des grands stratèges ou des grands techniciens ont des tactiques et des stratégies différentes selon s'il y a un capital culturel ou un capital plutôt économique dans la famille finalement. Alors que sur les familles populaires, donc je passe aussi relativement vite, on a deux types, c'est ce que disait Dominique Glassman ce matin, c'est-à-dire qu'on a effectivement des familles qui sont d'un milieu défavorisé ou populaire, selon les chercheurs, il y a l'un ou l'autre, l'autre terminologie. Si les familles sont effectivement, ne sont pas au chômage, ont une relative stabilité, elles auront bien entendu une attitude par rapport à l'école qui sera différente de ceux qui ont déjà tellement de problèmes au sein de la famille que ça va être difficile de pouvoir s'investir ou pouvoir suivre correctement ou aller voir l'enseignante, etc. Donc on a là aussi le fait que la précarité économique induit une certaine attitude, un certain retrait par rapport à l'école. Donc là, on est dans la famille Bastion qui essaye de se regrouper contre l'adversité, finalement, de la vie. Et puis, on peut avoir, malgré tout, des projets ambitieux. Donc, c'est là où on a aussi un problème de rupture, c'est-à-dire des projets ambitieux qui reposent sur les épaules de l'enfant. Il a une certaine estime de lui au moment du primaire. Et puis, quand il commence à avoir des difficultés, eh bien, toutes les attentes que pouvait avoir la famille en disant « tu feras mieux que moi », etc., ont des difficultés à se réaliser. Alors, est-ce que c'est ce qui fait qu'il peut y avoir ou décrochage ou autre c'est des sujets sur lesquels on va aussi, nous. Ça peut poser problème. Alors, l'accompagnement, autre volet intéressant sur l'accompagnement, comment se fait l'accompagnement et le suivi par la scolarité des parents. Donc le suivi, l'accompagnement est plutôt fait par les mères, plutôt par les parents bacheliers. On a 40% des parents ouvriers qui suivent, mais qui ne se sentent pas qualifiés. Il y a aussi ce sentiment de ne pas pouvoir suivre. La FEV a fait donc deux types d'enquêtes, une enquête auprès des élèves et une enquête auprès des parents. Alors les élèves, la dernière est de 2012, les parents, j'ai retrouvé qu'en 2011, mais les chiffres n'avaient pas fondamentalement changé. Et effectivement, les parents se disent, voilà, moi je ne peux pas aider mon élève, mon enfant. Alors je vais passer vite. Voilà, c'était juste pour vous montrer le petit schéma. Voilà, est-ce que vous avez l'impression que vous-même, en tant que parent, vous pouvez aider votre enfant à mieux réussir à l'école ou au collège? Donc on a 33% qui disent oui, 43% un peu, et puis on a quand même 24% des parents qui se sentent incapables ou incompétents pour suivre, pour aider leurs enfants. Je vais revenir juste voilà, sur celui-là. Et puis, il y a tout un moyen aussi d'aider et d'accompagner son élève. On l'a déjà vu, c'est-à-dire c'est toute cette partie, l'achat, alors les cahiers de vacances, ou les DVD éducatifs, ou les jeux éducatifs, ou les encyclopédies, etc. Donc, il y a effectivement tout un outillage qui peut être mis à la disposition de l'enfant dans la famille, qu'on n'aura pas, bien entendu, dans certaines autres familles. Voilà. Il y a aussi pour les catégories socioprofessionnelles plus l'idée du coaching, du soutien scolaire payant. Les familles de milieux populaires peuvent très bien passer par, comme on disait, le centre social du quartier pour avoir un soutien ou une aide aux devoirs. Bien entendu. Et puis, on a par ailleurs, des stratégies par rapport à ce maintien, ça peut être, enfin, par rapport à ce soutien, qui peut être soit de maintenir, soit au contraire de booster encore l'élève un petit peu plus. Hein, donc, on a le droit de martyriser ses enfants pendant les vacances. Alors, il y a aussi selon les familles, populaire ou pas, le rôle de la mère qui peut être différent, c'est-à-dire qu'on a dans les familles les plus instruites, donc c'est toujours l'idée de je le laisse un peu en autonomie, tâtonner, alors que dans les familles populaires, les mères ont tendance à aider et à faire à la place de leur élève les devoirs. Il y a deux attitudes aussi un petit peu différentes. Donc là, je vais passer. Alors, corrélativement au questionnaire donc des parents en disant qui leur demandait est-ce que vous avez des difficultés pour aider vos enfants, dans le questionnaire posé aux élèves, est-ce que tes parents t'aident parfois à faire tes devoirs, donc là on avait une proportion aussi oui parfois de 55 si j'ai bien calculé % des parents qui aideraient selon les enfants hein, sans trop de difficultés. Et si on demande ensuite d'une part aux parents quels peuvent être les blocages par rapport au moment des devoirs ? Alors j'espère que je n'embête pas ce que va dire Stéphane après. Pourquoi est-ce que vous avez des difficultés ? Soit parce qu'ils essentiellement parce qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils ont peur de se tromper. Ensuite, parce qu'on a des difficultés, et je vais y revenir du point de vue des enfants, c'est un peu la même chose, des difficultés à lire ou à écrire le français. Et l'idée de, voilà, ils se sentent pas compétents parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir eux-mêmes à l'école. Donc, il y a une espèce de blocage, voilà. Et puis, il y a des parents qui n'ont pas le temps. Il y a aussi l'option, on s'énerve, on se dispute. Ça, on a aussi connu. Du point de vue des élèves, on recroise, hein, puisque j'ai essayé de croiser les deux attitudes, les deux approches. De la même manière, donc, il y a une partie des élèves qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide ou qu'ils ne veulent pas se faire aider. Là, c'est le côté « on se dispute ». Et puis, par rapport aux compétences des parents, donc il y a effectivement 17% qui disent que les parents n'arrivent pas à les aider parce qu'ils ont des difficultés avec la langue française ou parce que les parents ne savent pas comment faire. Alors, j'ai essayé de regarder les enquêtes précédentes, mais c'est assez troublant parce que en 2011, on avait beaucoup plus de parents, enfin, d'enfants disant que les parents avaient des difficultés en français. Et si je regarde 2 ans avant, je me retrouve avec les chiffres de cette année-là. Alors, j'ai pas pris le temps de comprendre pourquoi il y avait eu cette montée en 2010, en l'occurrence. Je ne sais pas. Donc, j'ai mis les derniers chiffres qui portent donc sur 700 enfants de la banlieue lyonnaise. Alors, on a aussi des différences selon le genre, selon le niveau d'éducation. Ça, je l'avais déjà dit. Par contre, alors au niveau du genre, on a effectivement une différence, les filles ou les garçons, c'est-à-dire qu'on va, les pères vont bien entendu plus pousser leurs fils et les mères leurs filles, assez bizarrement. Et puis, donc effectivement, il y a aussi la part de relation entre l'instit femme, le prof des écoles. Le professeur ou la professeure qui peut aussi jouer entre les relations, si c'est le père qui va à l'école ou si c'est la mère, etc. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Je voulais juste après, en dernier, mettre dans ce questionnaire ce que les parents souhaiteraient comme changement par rapport à l'école. Juste comme ça pour dire, permettre aux enfants plus faibles de réussir. 41% d'entre eux, quasiment, qu'il y ait moins de tension entre les élèves, savoir mieux comment aider mon enfant à réussir, avoir plus de conseils sur l'orientation scolaire et professionnelle, que votre enfant soit plus jugé sur ses qualités et moins sur ses notes, parler plus souvent avec l'enseignant et qu'il y ait moins de devoirs. Voilà, c'est les principaux postes donc exprimés par un millier de parents questionnés par l'ENFEV en 2011. 2011. Voilà ce que j'ai, moi, pu retenir de ce que pouvait dire la recherche sur comment trouver des facteurs favorables ou non à la réussite éducative dans l'éducation familiale. C'est partiel, ça vous permet d'en discuter ultérieurement.